à toutes et à tous, je suis Lavande Grimbert, très heureuse de vous accompagner pour ce nouvel épisode de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement. Dans cet épisode, focus sur le nouveau dispositif de transformation raisonnée des tissus pavillonnaires que propose désormais Grand Paris Aménagement aux collectivités franciliennes. Une démarche qui semble, vous allez l'entendre dans cet épisode, absolument nécessaire lorsque l'on pense qu'en 2023, un francilien sur quatre vit en pavillon et qu'une étude de l'INSEE parue l'année dernière nous apprend qu'une écrasante majorité de Français, 77%, rêvent de vivre dans une maison avec jardin, si possible, en cas de nouvelle crise sanitaire. Depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, on voit s'étaler les quartiers de maisons individuelles en périphérie des villes, en première ou en deuxième couronne, en constatant que, loin de ce qu'on pourrait croire, ce mode de vie en pavillon n'est absolument pas monolithique. Mais en revanche, il se heurte aujourd'hui, partout et pour tous, aux défis démographiques et écologiques de notre 21e siècle. Et si les 88% de propriétaires franciliens de pavillons devenaient les mini-promoteurs de leur logement, en transformant leur potager, leur véranda ou leur cabane de jardin existant, ou en surélevant, en divisant, en rénovant pour s'aménager une autre vie familiale, intime et sociale. Il s'agit bien là, pour Grand Paris Aménagement, d'inventer la ville de demain avec les habitants, en changeant de paradigme. À mes côtés, autour de cette table, pour vous présenter cette démarche novatrice, Benjamin Aubry, architecte, urbaniste, cofondateur de la société Yudo, j'ai bien prononcé ?
Oui, tout à fait.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Michel Ronet, notaire associé à l'étude Chevreux, partenaire juridique de Yudo depuis sa création, pour un accompagnement optimal des particuliers. Bonjour.
Bonjour.
Et Philippe Reynaud, chef de projet études à Grand Paris Aménagement, qui pilote depuis un an ce chantier de transformation du tissu pavillonnaire en Île-de-France. Bonjour.
Bonjour,
monsieur Reynaud. Merci, bienvenue. Avant de parler de ce nouveau grand chantier initié par Grand Paris Aménagement, commençons par le commencement avec vous, Philippe Reynaud. Si vous vouliez bien nous faire un état des lieux du tissu pavillonnaire.
Le tissu pavillonnaire en Île-de-France, ça représente à peu près 45% de l'espace urbanisé. Donc on est à peu près à 96 000 hectares. Donc c'est très important et c'est pas forcément l'image qu'on a quand on parle du tissu pavillonnaire en Île-de-France. C'est une majorité aussi de ces logements qui sont occupés par des ménages seuls ou à deux. On est à peu près autour de 55%. Et comme vous l'avez dit, il y a énormément de propriétaires occupants. Ce qui est aussi une particularité de ce tissu. Alors il est multiple, il est pluriel ce tissu. Il y a des lotissements très classiques faits par un seul lotisseur, mais il y a aussi énormément de pavillons qui ne répondent pas forcément à une logique d'un lotisseur avec un parcellaire très divisé. Ça, c'est aussi une particularité. Donc voilà un peu les grands chiffres qui nous permettent de comprendre un peu le poids que représente le pavillonnaire.
Mais malgré ces grands chiffres que vous venez de rappeler, vous me disiez en préparant cette émission que c'était un peu un impensé des politiques publiques.
Effectivement, parce qu'il y a eu un développement un peu au fil de l'eau, comme vous l'avez dit, par extension urbaine ou par transformation du tissu existant. Et il n'y a pas eu de politique pour accompagner cette transformation du tissu pavillonnaire. Et on voit aujourd'hui qu'il est en prise à l'appétit des promoteurs ou à l'appétit de grands projets d'aménagement et qu'il est souvent un peu oublié dans cette transformation. L'idée, c'est un peu de le remettre sur le devant de la scène et pour montrer qu'il peut participer positivement, notamment au manque de logement en Île-de-France.
Manque de logement, bien sûr, puisque l'Île-de-France est la région la plus attractive où il y a le plus d'emplois, etc. Mais également l'arrivée de structures comme le Grand Paris Express, etc.
Oui, on voit qu'il y a le Grand Paris Express, évidemment, qui, avec des gares qui se mettent à la proximité immédiate de grands quartiers pavillonnaires. Donc, c'est aussi de voir comment une infrastructure publique pareille peut permettre aussi la densification autour de ces gares pour avoir aussi un mode de déplacement décarboné et comment ces quartiers, du coup, peuvent participer à cette évolution positive à l'heure du changement climatique.
Du changement climatique et à l'heure de l'arrivée du ZAN également.
Effectivement. Alors, le ZAN, c'est un peu ces trois ensembles. Hein. C'est le manque de logement, le Grand Paris Express et le ZAN. Alors, le ZAN, c'est zéro artificialisation nette. C'est d'arrêter la logique d'extension urbaine pour protéger les terres arables et plutôt d'être dans une logique d'intensification urbaine. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le tissu pavillonnaire, l'idée de procéder à une densification douce peut permettre une intensification de ces tissus pavillonnaires.
Cette expression « densification douce », elle est un petit peu oxymorique, n'est-ce pas ?
En fait, le dictionnaire est pluriel. On parle de densification douce, on parle aussi de micro-densification ou aussi d'intensification. Et l'intensification, c'est aussi intéressant parce que c'est pas que le bâti. L'idée, c'est aussi de faire évoluer les tiges pavillonnaires en quartiers pavillonnaires avec de la sociabilisation, etc.
D'accord, donc densification douce, intensification se joignent. Monsieur Reynaud, dans ce dispositif que vous avez imaginé en partenariat avec Youdo et l'étude notariale Chevreux, ce dispositif, il a été pensé pour répondre aux enjeux démographiques et environnementaux dont on vient de parler.
Oui, exactement, parce que en fait, on a souvent l'impression que le tissu pavillonnaire répond pas aux enjeux de la transition écologique, parce que c'est très étalé, etc. Mais en fait, il y a des impacts positifs en termes environnemental, notamment avec des jardins qui sont très importants, avec des cœurs d'îlots qui sont verts. Et l'idée, c'est de voir comment ce tissu pavillonnaire pourrait être densifié dans le cadre de la transition écologique, donc notamment en préservant l'identité pavillonnaire. Donc ça, c'est vraiment un élément fort du dispositif, c'est de pas gommer cette identité, de pas bâtir à chaque fois en fond de jardin, ce qui est souvent le modèle de la densification pavillonnaire. On appelle ça des parcelles en drapeau. Le jardin qui est derrière
une
maison individuelle, tout à fait, se densifie avec une nouvelle maison et avec un chemin qui va jusqu'à cette nouvelle
côté
maison.
Côté de la maison, comme ça, et pour accéder au fond.
Voilà, ouais. Exactement. Et du coup, on gomme un peu l'intérêt, c'est-à-dire le jardin avec des corridors écologiques qui existent dans ces cœurs d'îlots, mais évidemment aux îlots de fraîcheur, avec cette nature qui est nécessaire et qui est demandée en plus par les franciliens et par les habitants d'un point de vue global.
On fait avec les habitants, on le répète, et on fait avec ce qui existe déjà. Je me tourne vers vous, Benjamin Aubry. Vous me disiez, en préparant cet épisode, la ville écologique, elle est déjà là. Donc il faut travailler à partir d'elle.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est souvent dit, c'est qu'en fait, 80% de la ville de 2050, elle existe déjà. Et comme le disait Philippe, la qualité première de ces quartiers, c'est notamment la présence de jardins, la présence de pleine terre, qui est aujourd'hui essentielle par rapport notamment au réchauffement climatique, dans le cadre notamment de la lutte contre les eaux de chaleur. Et en fait, elle est là aussi dans le sens où elle a un potentiel pour nous démocratique, cette ville. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut être faite par une pluralité d'acteurs, en priorité les habitants, qui sont les premiers propriétaires, notamment de ces quartiers. C'est ce qui compose leur caractéristique première. C'est plein de petits terrains qui appartiennent pour 80% à des particuliers. Et à partir de ça, on peut imaginer énormément de choses. On peut imaginer, comme le disait Philippe, de la surélévation, des extensions. Quand on a une toute petite maison, on peut transformer aussi des existants. Je pense à des garages, à un certain nombre de bâtiments existants qui sont obsolètes. On peut enfin surélever ou encore, comme disait Philippe, construire en interstice quand il y a de l'espace possible entre deux maisons. Les modes d'action, ils sont pluriels, mais il y a aussi une grosse part de sujets autour de la rénovation de l'existant, qui a un enjeu assez primordial aujourd'hui, on le connaît. Ces projets-là, dans le sens où si un propriétaire va créer un logement, deux logements en plus, c'est la possibilité finalement de financer les travaux, parce qu'il va y avoir des revenus, soit par la vente de ces logements, soit par la location. Et en même temps, pour beaucoup de propriétaires, ça leur permet de rester chez eux. Comme le disait Philippe, encore une fois, il y a aujourd'hui plus d'un propriétaire sur deux qui est notamment âgé, qui a plus de 55 ans. Il y a une maison sur deux qui est occupée par moins de deux personnes. C'est le fameux.
Les enfants sont partis.
La taille des ménages diminue, divorce, etc. Enfin bon, il y a toute une série de faisceaux qui génèrent cette baisse de taille des ménages. Et donc, il y a un besoin aussi de repenser un peu ces logements dans leur configuration, les potentiels échanges qu'il peut y avoir, notamment entre les personnes peut-être vieillissantes qui habitent sur place et des nouveaux ménages sur lesquels il peut y avoir des sujets d'entraide.
Je vous cite à nouveau Benjamin Aubry, vous souhaitez, me disiez-vous, connecter les besoins des propriétaires de pavillons avec des projets d'intérêt général. Ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire oui. Qu'on va évoluer, on va faire évoluer son pavillon pour soi, sa famille, son couple, etc., mais dans une optique bien plus globale.
Tout à fait. Bah, en fait, créer du logement pour autrui, c'est déjà une forme de réponse à l'intérêt général. On connaît le besoin grandissant de logement qu'on a aujourd'hui, la crise qu'on traverse. Et en même temps, l'avantage, c'est qu'elle se combine avec ces grands objectifs de zéro artificialisation nette, de rénovation énergétique. Et donc, en fait, d'une certaine manière, c'est contribuer à l'intérêt général. Et puis, c'est aussi une manière de, petit à petit, en ajoutant quelques logements dans le tissu existant, de soutenir la création de services, trouver de la proximité. Donc c'est en ça que, en fait, ça répond à un certain nombre de choses qui connectent, qui sont connectées à l'intergénérationnel.
Un petit peu comment les villages se construisaient avant-guerre, c'est ce qu'on se disait aussi.
En fait,
on revient à des choses un petit peu plus micro, quoi.
Tout à fait, en fait, une sorte de ville organique qui se constituait sur elle-même avec une série d'histoires, une succession de générations dans un même espace. Et puis de génération en génération, on voit la ville qui évolue, qui bouge avec des nouvelles constructions et tout ça dans un même quartier.
Michel René, je me tourne vers vous à présent. Cette vision de transformation de l'existant dont on parlait avec Monsieur Aubry, qui est donc l'ADN de Yudo, j'imagine que vous la partagez, cette vision. C'est tout naturellement que vous avez été séduite par ce projet de Grand Paris Aménagement, non ?
Ah oui, enfin, ça a été une sorte d'évidence. Alors d'abord, ça a été avec Yudo avant Grand Paris Aménagement, hein, puisque Yudo avait gagné un concours au pavillon de l'Arsenal sur ces questions-là. Et donc, quand j'ai rencontré Benjamin, j'avais une vision un peu négative du pavillonnaire, hein, c'est-à-dire ses extensions urbaines, pas très qualitative en matière architecturale. Et moi, j'avais été baignée dans les nouveaux textes juridiques parlant de fin de l'extension urbaine, il fallait redensifier, etc., etc. Et en fait, dès que Yudo et notamment Benjamin m'a exposé notamment le potentiel en Île-de-France, et puis dès que il a mis des gens, des visages, des projets derrière tout ça, en fait, ma vision a totalement changé. Et en fait, il y a une sorte d'évidence, ce qui caractérise finalement ces secteurs, des gens qui vivent, qui vieillissent, qui ont des nouveaux besoins. C'est une évidence que la démarche était extrêmement intéressante. Avec Benjamin, quand on a commencé à travailler, on était sur des sujets ponctuels. On se rend compte que ça ne peut marcher et se développer que s'il y a une vision globale qui est portée. Grand Paris Aménagement nous l'a apporté et ça, c'est absolument fabuleux.
Oui, et donc un aménageur tel que Grand Paris Aménagement était absolument essentiel pour fédérer, porter. Vous étiez trop petit, entre guillemets.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte de deux choses. C'est-à-dire que, en fait, dans les documents d'urbanisme, type plan local d'urbanisme, eh bien, en fait, les élus ont établi des documents qui sont pas du tout adaptés à cette densification douce, qui a une volonté de contrôler très forte, voire d'empêcher cette densification douce dans les collectivités. Tout ça parce que, en fait, il y a des dérives qu'on constate. Deux types de dérives, des projets qui sont pas pensés, donc ont plus ou moins de la qualité dans ce qui peut être fait, ou alors, sur certains secteurs, des marchands de sommeil qui, en fait, achètent ces biens, divisent, et bien sûr, les utilisent pour faire du logement non décent. C'est une vraie difficulté qui pose question aux élus et qui font que ces derniers n'ont pas envie de mettre en place des documents d'urbanisme permettant de cette densification douce, et donc avec des règles très contraignantes. Et donc, on voit bien que un aménageur comme Grand Paris Aménagement peut assurer ce contrôle via toute une série d'outils que, je pense, Philippe exposera. Puis il y a un deuxième sujet, c'est que en fait, on est face à des particuliers non professionnels. Bah, faire de la micro-promotion, c'est un métier, c'est pas simple. Il faut savoir demander aux bonnes personnes, prendre les bonnes décisions, être bien accompagné. Il y a une nécessité d'assistance très forte, personnalisée dans ces dossiers. Et là aussi, Grand Paris Aménagement peut jouer un rôle important. Et tout ça, tout ce travail-là, va permettre aussi, à mon avis, de capitaliser les bonnes idées, de mutualiser les moyens, les conseils, et donc
de rassembler, de fédérer.
C'est exactement ça.
Michel René, est-ce que ce genre de projet urbain de grande ampleur peut faire bouger, évoluer la loi, le cadre législatif ? Comment on peut imaginer que ça soit plus simple ?
Je pense que Philippe va parler du secteur de renouvellement du pavillonnaire, qui est le grand projet de GPA. Faire un PLU qui permettent de la densification douce, c'est parfaitement possible. C'est très simple et donc il suffit de repenser la manière de faire un PLU, mais ça, la loi l'autorise déjà. Il y a sûrement un certain nombre d'ajustements nécessaires, notamment sur des questions de division foncière, pour que ce soit plus simple, plus facile, et que ce soit moins lourd en termes d'autorisation. Mais ça aussi, à partir du moment où le secteur de renouvellement du pavillonnaire, en fait, deviendra le mode d'aménagement de ces secteurs-là, je pense que le droit s'adaptera naturellement.
Vous me parliez d'absurdité. Aujourd'hui, dans le secteur pavillonnaire, pour aménager, etc., on peut arriver à des absurdités. Vous me parliez d'une histoire de local poubelle.
Par la simple application des règles qu'on applique à la parcelle, il faut potentiellement, dans certains PLU, faire un local poubelle pour la première densification, un deuxième pour le deuxième projet.
C'est-à-dire pour la maison 22 et la maison 20 de la rue.
Exactement.
Alors qu'on pourrait en faire un.
On pourrait en faire un seul, et ce qui permettrait de récupérer du foncier, récupérer du bâti pour autre chose. En fait, tout ça n'a pas grand sens. Et ça reprend ce que disait Philippe tout à l'heure sur le fait que le développement de ces secteurs-là et le renouvellement de ces secteurs-là n'est pas pensé. Aujourd'hui, le droit de l'urbanisme est pensé pour construire des nouveaux projets, il n'est pas pensé pour la transformation. Et aussi, on a un droit de l'urbanisme qui réfléchit à la parcelle, qui ne réfléchit pas globalement et qui ne réfléchit pas en termes de mutualisation des services, des espaces. Et ça, dans les secteurs de renouvellement, ce serait quelque chose de fondamental.
Je reviens vers vous, Monsieur Reynaud. Michel Ronet vient d'évoquer la pertinence de tout ce plan de transformation. Expliquer les étapes précises de ce plan, ça nous éclairerait encore une fois.
Ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille pour les collectivités, à la demande des collectivités. En gros, c'est une opération d'initiative publique. Ce qui est très important dans ce type de tissu, où en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'était que des opérations d'initiative privée. Et en premier lieu, on va faire une étude de potentiel pour voir, en fonction du périmètre qu'on a choisi avec la collectivité, comment on pourrait densifier de manière théorique ce quartier pavillonnaire. Donc là, on va faire une étude de potentiel avec, en regardant déjà les règles du PLU, en regardant le tissu existant, et de voir ce qu'on peut faire en termes de surélévation, d'interstices pavillonnaires, etc. Et finalement, de voir, pour déjà faire comprendre à la collectivité l'impact que peut avoir une densification douce, donc sans défigurer le pavillonnaire, le nombre de logements qui pourraient être construits. Évidemment, c'est théorique. C'est à l'initiative aussi des propriétaires. Mais ça permet déjà de changer un peu notre vision qu'on a de la densification et notre vision aussi du pavillonnaire, en quoi il peut vraiment servir l'effort qu'on doit avoir sur le nombre de logements en Ile-de-France.
Oui, la collectivité doit s'y retrouver, doit trouver son intérêt.
Doit s'y retrouver, et surtout l'idée c'est aussi de démystifier un peu la densification douce du pavillonnaire. Parce que en fait on sait pas trop ce que ça représente, on se dit surélévation, interstice pavillonnaire, sur un quartier de 400 logements, je vais peut-être rajouter 20 logements. Mm-hmm. On se dit ça, mais en fait ça peut être beaucoup plus, ça peut être 100 logements en plus, comme c'est un travail de dentelle, vraiment dans la finesse, et qu'on n'a pas l'habitude, comme le disait Michel aussi, de travailler dans l'évolution, etc. La première étape, cette étude de potentiel, c'est aussi un diagnostic social pour identifier les marchands de sommeil, qui un peu est un problème aussi, parce que c'est des logements souvent insalubres, avec un découpage qui est fait avec très peu de travaux, etc. Donc c'est aussi d'identifier ces points durs pour aussi les transformer. Et après, évidemment, le potentiel il est plus large, c'est identifier les services, identifier les capacités en termes de réseau, etc., pour s'adapter à cette densification potentielle. Donc ça, on va dire que c'est la première étape. Et la deuxième étape, si finalement c'est concluant, cette étude est concluante, et si la collectivité veut poursuivre son travail, le SRP, le secteur de renouvellement pavillonnaire, on l'a appelé comme ça, ça pourrait avoir un autre nom, mais ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Donc là, c'est rentrer dans l'opérationnel, et c'est vraiment mettre en place une opération, on va dire, de type ZAC, mais en fait, c'est une ZAC adaptée au pavillonnaire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé secteur de renouvellement pavillonnaire. Et ça pourrait nécessiter une évolution législative pour vraiment officialiser ça.
Exister véritablement.
C'est ça, exactement. C'est une opération d'initiative publique avec un aménageur. On aurait un périmètre défini avec un allègement des règles du PLU, et une adaptation pour que chaque projet puisse aussi se faire.
On en parlait avec Michel.
Voilà, ce qui est souvent un frein, en discutant avec Benjamin aussi, une petite règle qui va faire qu'en fait, tout tombe à l'eau, alors que ça défigure pas du tout le tissu.
Ça peut être frustrant, oui.
Exactement.
Je confirme.
Et puis après, c'est travailler avec les habitants, donc ça on en parlera après, mais on va en fait faire des conventions de participation, donc pour aussi que le projet participe à l'aménagement du quartier, et des conventions d'association. Donc ça, c'est adapter les règles, etc., faire en sorte que, par exemple, si on veut que tous les volets soient roses, bah on va le mettre dans cette convention d'association. En fait, c'est les prescriptions, on appelle ça des prescriptions, tout ce qui doit être respecté, donc prescriptions urbaines, architecturales, environnementales et techniques, voilà, exactement. Mm-hmm. Pour que le projet se fasse, le projet devra respecter cette
le cahier des charges,
ces prescriptions.
D'accord.
Voilà. Et ça, c'est assez nouveau. Et enfin, dans cette opération, l'idée, c'est aussi de réaménager les espaces publics. Donc, réaménager les rues, parce que souvent, quand on parle de mode doux, finalement, il n'y a pas des pistes cyclables, les voitures se garent partout, etc. Donc, c'est problématique. Et enfin, la troisième phase, c'est le dispositif d'accompagnement personnalisé, qui est vraiment un changement de paradigme pour un aménageur.
C'est d'impliquer véritablement
voilà,
le propriétaire.
C'est de et pour que les propriétaires soient véritablement les acteurs de cette transformation. Et donc, c'est à leur demande aussi qu'on va venir travailler pour eux, donc leur montrer ce qui est possible de faire en termes de volume, mais aussi d'un point de vue financier.
Oui, ça c'est important.
C'est important. Et on a des besoins, mais on a du mal à les dimensionner d'un point de vue financier, d'un point de vue volumétrique. On ne voit pas trop comment on pourrait réaménager.
On peut être un peu perdu, oui.
Et même pour les aides, par exemple, en termes de rénovation énergétique, comme le disait Benjamin, qui est un point très fort.
C'est vous aider à orienter.
Et donc, de faire avancer son projet jusqu'à sa réalisation.
Vous, Benjamin Aubry, avec Yudo, vous êtes un des accompagnateurs de ce projet. Et justement, comme vous êtes architecte, vous avez conceptualisé, vous savez très bien de quoi vous parlez. Vous avez déjà même réalisé des rénovations, bien entendu, des surréalisations. Un exemple comme ça de ce qui peut être possible pour un trajet de vie particulier, vous aviez...
Je peux vous en citer deux rapidement. Il y en a un sur une grande maison avec des propriétaires âgés dont les enfants étaient partis. Ils avaient acheté la maison il y a 40 ans. Et la question qui se posait, c'était, bon, ils ne voulaient pas partir de chez eux. La maison est trop grande, elle leur coûte trop cher à entretenir, faut la rénover, etc. Et donc, on a fait plusieurs faisabilités. Et ce qui a été choisi, c'était la division de la maison en trois logements. Donc, le lot principal qui est conservé par les propriétaires avec une grande partie du jardin. Un studio dans l'ancienne partie du garage qui a été vraiment aménagé avec une belle hauteur sous plafond et qui bénéficie également d'une terrasse et un duplex à l'étage avec donc les trois logements ayant des accès indépendants. Donc ça a nécessité quand même un petit peu de travail, d'imagination et ça permet aux propriétaires d'avoir un complément de revenus, de financer la rénovation énergétique et en plus d'intégrer un peu une réflexion patrimoniale pour leur transmission à leurs enfants.
Et vous êtes là du début à la fin pour les accompagner?
Alors on les a accompagnés du début à la fin. Alors je précise juste que nous, on ne fait pas de maîtrise d'œuvre, enfin d'architecture pour en parler. On vient vraiment en AMO, c'est-à-dire en assistant à maîtrise d'ouvrage,
en amont,
sur des parties d'aide à la décision. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire, combien ça vous coûte, combien aussi dans l'équilibre financier global par rapport à un emprunt, pas d'emprunt, tant d'années, tant d'apports, etc. Donc, on regarde tout ça de près. On a développé des outils pour ça. Ou un autre exemple, ça va être des propriétaires accédants, là, en l'occurrence, ou secondo-accédants, qui ont acheté une toute petite maison qui faisait 40 mètres carrés, une maison de plein pied. Et donc, on est venu surélever, donc avec un étage en plus, et dans lequel en fait il y a à la fois donc la partie, le corps principal de la maison qui est pour les propriétaires avec leur enfant et un appartement, pareil indépendant, qui est en location. Donc ça permet en fait de financer à la fois des travaux de qualité et de couvrir une partie de l'emprunt.
Et donc, ça peut se faire dans le cadre de ce renouvellement du secteur pavillonnaire à grande échelle.
Tout à fait. Parce que chaque projet, là, dans le PLU actuel, c'est toujours particulièrement compliqué, ardu. Il faut toujours essayer d'obtenir des dérogations ici et là, de faire des montages parfois extrêmement complexes et kafkaïens.
Philippe Reynaud, pour tester ce dispositif en 2024, pour quitter le pays de la théorie et pour arriver un petit peu dans la pratique, vous avez déjà convaincu quelques communes franciliennes. Vous comptez sur un effet d'entraînement après ?
C'est vrai que maintenant, on doit transformer l'essai en testant ce dispositif et potentiellement, on va l'expérimenter pour l'amender, le faire évoluer si besoin pour le tester à la réalité. C'est vrai que oui, on a convaincu deux collectivités qui sont en demande aussi de ce type de dispositif et qui veulent être pilotes pour cette future façon de faire évoluer le pavillonnaire.
Bah oui, c'est réjouissant quand même.
C'est nouveau. C'est vrai qu'ils sont accompagnés par un acteur qui vraiment souhaite travailler avec la collectivité. Pour les habitants aussi, il y a des collectivités qui viennent vers nous de manière assez spontanée parce que c'est vrai que souvent il y a deux réflexes. Les collectivités, soit elles mettent sous cloche, elles veulent pas que ça bouge parce qu'en fait ça a déjà trop bougé, il y a déjà trop d'immeubles qu'on poussait. Donc elles figent en fait ces secteurs sans savoir comment s'y prendre pour les faire évoluer mais pas les transformer totalement. Ou sinon bah on se dit bah on va transformer totalement un secteur pavillonnaire mais du coup il y a des habitants qui sont un peu vent debout pour faire une opération très dense. Ce nouveau dispositif semble convenir. Nous, on pense en tout cas que c'est une des réponses en ne travaillant pas que à l'échelle de la parcelle, mais en ayant une vision d'ensemble qui permet une transformation qui soit cohérente d'un point de vue urbain. C'est un peu notre travail d'aménageur, finalement. Et l'idée, c'est de montrer par l'exemple. Et en voyant dans l'espace urbain qu'en fait, c'est pertinent, que moi aussi, finalement, je suis tout seul dans mon logement et j'ai énormément d'espace. Et comme c'est un peu l'exemple que disait Benjamin, ce serait pertinent d'avoir des revenus complémentaires, de pas être tout seul aussi, etc. Et après, il y aura un effet d'entraînement.
On l'espère pour aussi transformer des vies intimes et de famille, pour écrire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des histoires. Benjamin Aubry, on le répète, il est important, il est essentiel de rénover. Vous me parliez de mieux vivre ensemble avec du logement social, du co-living, des crèches, etc. C'est vraiment, encore une fois, faire du global, quoi.
Oui, tout à fait. C'est en fait cette fameuse idée de village dont on parle beaucoup. Je me souviens, en deuxième année d'architecture, j'avais fait un mémoire un peu justement sur pourquoi les gens vivent en pavillon et le terme village revient beaucoup. Et ben en fait, ce qui est aussi dans le village, c'est des services, c'est une boulangerie, c'est le fait de pouvoir aller à pied quelque part, à la librairie, etc. Et donc en fait, moi je crois beaucoup que le pavillonnaire en fait a cette qualité. Le tout, c'est de respecter justement ce qui fait son identité, ce qui fait son charme. On parlait des jardins, on parle aussi, je pense, d'échelle de bâtiment. Ce qui est beaucoup refusé aujourd'hui, c'est quand on voit un promoteur qui arrive dans un quartier pavillonnaire, qui rase tout, y compris les arbres parfois centenaires ou qui sont pas forcément protégés. Puis on voit tout disparaître. Alors qu'en fait, là, c'est progressif. Les habitants sont des acteurs. Je pense qu'ils peuvent être fiers souvent aussi de ce type d'opération. Je crois beaucoup à l'effet de boule de neige. On le voit, en fait, cette densification, elle existe déjà dans certains secteurs, notamment des secteurs pavillonnaires autour des pôles étudiants, par exemple. Oui. Vous avez constaté que vous avez beaucoup de maisons qui ont été divisées, sur lesquelles vous avez des propriétaires qui les louent. J'en suis moi-même témoin avec mon propre papa. Avec, oui. Et en fait, c'est
la colocation
c'est
entre générations
tout à fait.
Également.
Il y a l'avantage aussi derrière tout ça d'avoir des liens intergénérationnels qui se mettent en place, des liens d'entraide. On parle beaucoup de l'isolement des personnes âgées. C'est une manière aussi d'y répondre sans forcément habiter absolument ensemble. Mais je pense beaucoup à la diversification des formes d'habitat et sans pour autant dire la maison individuelle c'est fini. Au contraire, c'est une autre manière de la faire, de la régénérer, lui redonner un sens.
Lui redonner ses lettres de noblesse. Philippe Reynaud, le mot de la fin, il est pour vous. On se reparle dans 10 ans pour un premier bilan ?
On se reparlera quand on commencera les premières opérations en secteur de renouvellement pavillonnaire. Les dés seront jetés et on avancera avec des premiers projets. Et ce sera, on l'espère, une réussite.
Un grand merci à tous les trois d'avoir participé à cet épisode de Vous êtes bien urbain, le podcast de Grand Paris Aménagement sur la future transformation raisonnée des tissus pavillonnaires. Et un grand merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt.